Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Nous sommes le vendredi 2 décembre et on vous accompagne pour terminer la semaine, deux heures durant, pour continuer à parler de vos placements. Et on file tout de suite sur les marchés grâce à Antoine Larigauderie qui, comme chaque jour, est installé dans cette salle de contrôle du CAC et qui suit pour nous les tribulations de l'indice. Que se dit-on pour terminer la semaine? Une heure de cotation et j'imagine aussi les yeux rivés sur la pendule pour l'emploi américain.
Ouais, effectivement, c'est un peu ça. Et du coup, on a une tendance légèrement négative. On s'est un petit peu cherché en avant-marché. Et puis, finalement, la prudence l'emporte. Alors, on prend quelques bénéfices sur ce qui a bien grimpé en cours de semaine. Mais il faut dire que le dernier jour de novembre aura vraiment été mené tambour battant par les fonds d'arbitrage qui ont vraiment fait leur travail et qui ont clôturé leur compte. Donc, depuis, on fait un petit peu de surplace. On se cherche un petit peu. Les volumes sont plus calmes. Puis surtout, on n'arrive pas à trouver vraiment de tendance. Et c'est vrai que dans l'attente de chiffres aussi importants que ceux de l'emploi américain cet après-midi, on a une posture un petit peu prudente des marchés, ce qui explique ce léger recul du CAC 40 à -0,36%. On reste quand même bien à 6729 points. Mais du côté des autres places européennes, on a même de meilleures performances. Tenez l'Eurostock 50 qui ne perd que 0,2%. Et puis le DAX à Francfort qui est même dans le vert légèrement, plus 0,11%. Donc un climat un petit peu mitigé. Alors il y a quand même un point qui commence à légèrement inquiété les observateurs, c'est ce qui se passe autour du marché obligataire, parce que c'est vrai qu'on a eu une correction assez nette et notamment sur les dettes européennes. On reste vraiment sur une correction assez marquée, hein. Regardez, 2,23 pour la dette française 10 ans, 1,78 pour la dette allemande. Il n'y a encore pas si longtemps, on était quand même à 2%. La correction s'est effectuée extrêmement rapidement, mais ça a été suivi hier par une forte correction du 10 ans américain qui tombe à 3,5%. Alors tout ça, ça provoque quelques déséquilibres et en particulier en défaveur du dollar, qui est sur une phase baissière, avec un euro-dollar qui monte au-dessus d'1,05, donc un niveau intéressant et qui continue d'ailleurs à progresser. Mais ces déséquilibres assez forts et sur une très courte période de temps commencent à un peu inquiéter les analystes, d'autant que du côté des économistes, on s'accorde à dire que 4%, c'est le bon niveau pour les taux longs américains. Là, on est quand même légèrement en dessous et puis vraiment sur une dynamique qui se précise à la baisse. Donc du coup, il y a peut-être un petit peu de prime de risque à intégrer à ce niveau-là. Du côté des actions, Téléperformance signe quand même la plus forte hausse du CAC 40 et elle s'intensifie. Hein, plus 3,16%, on est à 228,20€. Dassault Systèmes, plus 1,45 à 37,22€. On a également STMicro, plus 0,66% à 37,13€. Hein, la semaine qui vient de s'écouler est quand même le théâtre d'une belle reprise autour des technos. À noter l'aéronautique qui se porte bien aussi avec Airbus, plus 0,7 à 110,96€ et Safran, plus 0,76 à 117,42€. À la baisse, Sanofi, moins 2,47€. Hein, une baisse assez marquée à 85,29€. On a également le secteur auto, Renault qui perd 2% à 34,30€, Michelin moins 72 à 26,58€, puis Total Energy qui baisse d'1,59%. On est en ce moment à 58,33€, malgré une fermeté assez marquée des prix du brut. On est du côté des 87$ pour le baril de Brent de Mer du Nord. Voilà, malgré tout, on est sur cette petite baisse là, en attendant l'emploi américain. Moins 0,31%, 6732. Et puis, je vous le disais, l'euro-dollar bien au-delà d'1,05 et on continue de forcir à 1,0537, Cédric.
Merci Antoine Larigauderie. Tout de suite, l'info éco avec Nathan Cocampo.
BFM Business, l'info éco.
Les grandes lignes de la réforme des retraites se précisent. Dans une interview au Parisien, Elisabeth Borne indique que la génération 1961 sera la première concernée. La réforme sera mise en place à partir de l'été prochain et de façon progressive pour un âge de départ de 62 à 65 ans d'ici à 2031, ce qui, selon elle, doit permettre de ramener le régime à l'équilibre dans les 10 ans. Le projet complet sera présenté le 15 décembre. La production industrielle en France a baissé de 2,6% en octobre sur un mois. Elle avait avait déjà reculé à 0,9% en septembre, rapporte l'INSEE. Un nouveau repli qui s'explique par une baisse de la production dans toutes les grandes branches. Joe Biden promet des ajustements sur l'Inflation Reduction Act. Si le président américain maintient son plan anti-inflation et toutes les subventions qui vont avec, il souhaite que les Européens puissent prendre part aux projets subventionnés, par exemple dans les puces ou les renouvelables. Toutefois, le président américain ne donne pas plus de détails. Dassault Aviation confirme un accord avec Airbus pour créer l'avion de combat européen SCAF. La signature doit avoir lieu dans les prochains jours et on apprend ce matin que son concurrent, le projet Tempest, mené par les Britanniques avec les Italiens, se concrétise lui aussi. Ils sont désormais rejoints par les Japonais. BAE Systems et Mitsubishi sont aux commandes. Une future bataille commerciale est en vue. L'Europe a deux doigts de conclure un accord sur un prix plafond du pétrole russe. La Commission a proposé un plafond de base de 60 dollars. L'UE a déjà décidé d'interdire aux 27 de l'achat de pétrole russe par voie maritime à partir de lundi prochain. Pour le moment, c'est la Pologne qui bloque le feu vert. 6 000 euros pour l'embauche des apprentis. C'est le montant fixé l'an prochain pour la prime à l'embauche. Elle concerne les mineurs ou les majeurs de moins de 30 ans. Par rapport à la prime actuelle, elle augmente de 1 000 euros pour les mineurs et baisse de 2 000 euros pour les majeurs. Les entreprises étaient accusées de profiter d'un effet d'aubaine sur les formations supérieures. Plus de vols intérieurs courts en France, selon l'AFP. Bruxelles va donner son feu vert à la mesure française de suppression des vols intérieurs en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Une mesure limitée à 3 ans et qui s'appliquera aussi aux vols de correspondance. Une annonce officielle est attendue aujourd'hui. Vos rendez-vous du jour sur BFM Business. À 13h, Frédéric Bianchi, journaliste BFM Business, animera un débat sur les différents réseaux sociaux de la chaîne sur le thème « L'inflation va-t-elle tuer le bio ?» Et ce soir, Jean-David Blanc, fondateur d'Allociné et Molotov TV, sera l'invité de Frédéric Mazella à 19h dans Les Pionniers.
Merci Nathan. Nathan Cocopo qu'on retrouve dans une heure, 11h, pour suivre cette actualité économique. Et nous, dans l'intervalle, on s'intéresse au monde de vos placements et on commence par les placements actions.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Grâce à Louis-Marie de Sade qui nous attend chez Euroland Corporate. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous. Vous nous proposez un éclairage ce matin sur SES Imagotag. Vous nous rappelez d'abord un petit peu qui est SES Imagotag ?
Oui, absolument. Alors je vais vous parler aujourd'hui de SES Imagotag. C'est le leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique. Le groupe a annoncé il y a quelques jours un nouveau plan stratégique à 2027 avec un objectif d'envergure, celui d'atteindre 2,2 milliards d'euros de revenus. Alors SES Imagotag s'inscrit sur une véritable tendance de fond amorcée depuis la crise sanitaire, c'est celle de la digitalisation du magasin. Positionné très tôt, le groupe s'est ainsi retrouvé être le partenaire idéal pour les acteurs de ce secteur, proposant une offre technologique de pointe, replaçant l'innovation au cœur du rayon et ouvrant la porte au pilotage des magasins par la donnée. C'était une véritable révolution. Pour ce faire, le groupe a développé une offre autour de deux produits. Le premier, c'est une étiquette électronique ainsi que des caméras qui permettent d'afficher les informations essentielles sur le produit présenté et de capter de nombreuses données. Et le second, c'est le software qui offre de nombreux services depuis une plateforme cloud et permet de transformer les magasins physiques en de véritables environnements digitalisés. Et donc, le groupe a présenté son plan stratégique et plusieurs éléments sont à retenir. Sur le volet de la croissance, le principal objectif de SES Imagotag est de changer une nouvelle fois de dimension, passant de plus de 600 millions de revenus estimés en 2022 à 2,2 milliards d'euros en 2027. Deux axes permettront d'atteindre ces objectifs. Le premier, c'est d'accélérer en Europe, son marché historique, en explorant nouvelles verticales et en imposant sa plateforme cloud. Le second, c'est de pénétrer massivement le marché nord-américain en multipliant les installations chez nouveaux clients de premier plan, comme Walmart, par exemple. Sur le volet de la marge, il y a deux axes qui sont aussi évoqués. Celui de l'accélération de la commercialisation de ses services et de ses briques logicielles plus fortement margées, et celui de la poursuite de la maîtrise de ses charges opérationnelles avec comme ambition de maintenir les OPEX autour de 10% du chiffre d'affaires. Ces éléments, ils devraient ainsi permettre au groupe d'atteindre en 2027 une marge d'EBITDA de 22% contre 10% aujourd'hui. Et enfin, le dernier volet concerne les efforts en matière d'ESG et notamment autour de la réduction de l'empreinte carbone et de la réutilisation de ces étiquettes électroniques. Un objectif ambitieux qui a ainsi été communiqué, c'est celui de réduire de 30 à 40% son intensité carbone. Et fort d'une base installée importante, d'un carnet de commandes à date de près de 600 millions d'euros et de dirigeants alliant vision et pilotage exemplaire, nous on pense que ce plan stratégique, il est tout à fait atteignable et devrait permettre à SES Imagotag de changer significativement de taille et de capitalisation.
Voilà donc quelques idées. Est-ce qu'on peut se fixer du coup une forme d'objectif de cours? Qu'est-ce que vous nous recommandez ce matin?
Alors nous, on est à l'achat et on a un objectif de cours de 170 euros par action.
Pour un titre qui cote 134 euros ce matin en hausse, assez net hein, déjà, d'un 98%. Merci beaucoup Louis-Marie de Sade, donc Orland Corporate ce matin, dans un marché qui est en repli de 0,37% en ce moment, le CAC à 6732 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Patrice Gautry est en duplex avec nous depuis l'Union bancaire privée à Genève. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Les marchés sont un peu arc-boutés sur la conjoncture en ce moment. Taux, inflation, emploi, on se préoccupe beaucoup de tout ça. Quels commentaires peut-on faire sur leur orientation quand on est économiste ?
Oui, il y a des développements intéressants puisqu'on a vu effectivement le marché actions qui rebondissait en début de semaine sur un peu plus de flexibilité sur la politique sanitaire liée au Covid et aux contaminations donc en Chine. Et puis par contre, en fin de semaine, on a eu des inquiétudes puisque l'indicateur ISM, donc la confiance des entreprises, donc qui est un indicateur avec sous, je dirais, le projecteur de grandes entreprises, cet indicateur ISM passait en dessous de 50 et donc le marché actions commence à s'inquiéter d'un ralentissement prononcé donc de l'économie américaine. Et du côté du marché obligataire, ben c'était un peu, on l'a vu avec les taux qui sont relativement bas ce matin. Hein, on est proche sur le 10 ans américain des 3,50. On est revenu à 3,50 alors qu'on était il y a quelques mois, quelques semaines au-dessus des 4%. Eh bien, en fait, là, c'est un peu le contraire puisque, je dirais, les mauvais indicateurs ont amené en fait de bonnes surprises sur l'inflation avec le core PCE donc qui a monté moins qu'attendu. Et puis, au sein des indicateurs ISM et PMI, on a vu que l'indicateur des prix payés était, lui, donc en ralentissement. Donc, on a deux trajectoires un petit peu différentes. Un qui s'inquiète, en fait, d'un ralentissement qui est en train de prendre corps au niveau américain et un marché action, donc, qui s'inquiète et un marché obligataire qui est rasséréné sur une politique monétaire qui ne serait pas trop dure et des premiers ajustements qui sont en train de prendre corps, là, du côté de l'inflation et moins d'inquiétude.
Voilà donc votre regard, mais ça va se poursuivre, enfin ça va être notre pain quotidien en 2023 ?
Non, peut-être pas. Alors on a bien entendu des statistiques encore importantes. Non, je ne pense pas. Il est certain que là, les marchés obligataires prennent une direction qui est peut-être un petit peu trop rapide au travers de ces détentes de taux. On voit bien qu'il y a encore, je dirais, comme l'ont révélé en fait les discours de la Fed et notamment Monsieur Powell, il faut continuer à monter les taux d'intérêt directeurs. Il y a encore, je dirais, pas mal de ralentissements à venir pour que la Fed infléchisse véritablement donc sa politique monétaire. Et notamment, M. Powell a rappelé qu'il aimerait voir les salaires ralentir de façon significative. Donc, effectivement, les marchés obligataires vont peut-être un petit peu trop vite. Et puis, côté marché actions, eh bien, on va se poser la question sur la dynamique de bénéfices et des valorisations qui, en début de semaine, avaient remonté à des niveaux relativement élevés. Donc, non, je ne pense pas que cette semaine soit le reflet de 2023. Bon. Et encore, il y a beaucoup de rendez-vous économiques à valider avant, effectivement, d'avoir une trajectoire claire pour les deux classes d'actifs.
Le premier rendez-vous, bah, il va avoir lieu cet après-midi avec l'emploi américain.
Oui, tout à fait. Alors là, justement, c'est un test grandeur nature à nouveau pour les marchés obligataires. Alors on s'attend, le consensus s'attend à 200 000 créations d'emplois, donc en ralentissement par rapport à 260 000, un peu plus de 260 000 qu'on avait donc le mois passé. Ces statistiques sont toujours très, très volatiles. Je dirais les préliminaires que l'on avait eus avec les indicateurs JOLTS et ADP nous indiquaient qu'il y avait plutôt un risque à la baisse, c'est-à-dire que le chiffre présenté cet après-midi soit peut-être inférieur à ce consensus. Et puis, si le taux de chômage ne devrait pas beaucoup bouger, 3,7%, on va regarder, bien entendu, donc les salaires. Les salaires sont attendus en faible progression, 0,3% et 4,6% sur un an. Si jamais, effectivement, il y avait un rebond des salaires, alors à ce moment-là, la bonne performance des marchés obligataires cette semaine serait totalement remise en cause.
Voilà pour ce chiffre qu'on attend effectivement en début d'après-midi. En quelques mots aussi, sur votre agenda de la semaine prochaine, qu'est-ce que vous retenez ?
Deux choses, on va avoir les indicateurs PMI et ISM du côté des services, donc là à surveiller. On avait une stabilisation donc en Europe et on devrait avoir encore dans les préliminaires, et on avait effectivement plutôt une baisse du côté des services américains. Et puis on va avoir des statistiques de prix en Chine à surveiller, bien entendu, pour l'inflation chinoise, et puis peut-être aussi d'autres déclarations sur la politique sanitaire en Chine. C'est une semaine un petit peu moins chargée, il y aura moins de déclarations des gouverneurs, puisqu'on aura bientôt, dans 15 jours, la réunion de la Fed.
Merci beaucoup, Patrice. Patrice Gautry, l'Union bancaire privée, chaque vendredi avec nous pour causer conjoncture. Et nous, tout de suite, on s'intéresse aux questions immobilières.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour, Marie-Cœur Leroy.
Bonjour, Cédric.
Il a fallu toute la semaine pour que Marie se remette de cet événement fabuleux auquel elle a assisté le week-end dernier. Vous étiez à Malte. C'était pas des vacances.
Non.
Nous avez-vous dit.
Mais c'était pas désagréable pour autant. Hein.
C'était le séminaire technique du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. En clair, tous les acteurs de la maison neuve réunis. Pourtant, c'était pas. Enfin, ça n'est pas un contexte.
Facile.
Sympa.
Non. Alors oui, effectivement, dire qu'ils traversent quelques difficultés serait un euphémisme. Effectivement, c'est compliqué. Alors on le sait, dans ce secteur-là, il y a, j'ai envie de dire, les difficultés presque structurelles de ce secteur, surtout en ce moment, même si ça devient un peu du conjoncturel, mais c'est un tout. Hein. C'est évidemment la lutte des collectivités locales contre l'artificialisation des sols. Vous avez aussi la perspective de la ZAN, la zéro artificialisation nette, sans parler effectivement des réglementations environnementales avec la RE2020 qui est là maintenant. Donc évidemment, on a ces difficultés-là, et puis à toutes ces difficultés-là s'ajoute ce qui est véritablement conjoncturel là pour le coup, qui est la flambée des coûts des matières premières. Et c'est vrai qu'à l'occasion du séminaire technique, le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment nous a aidé à mesurer les surcoûts que subissaient ces acteurs. Et alors c'est assez impressionnant, puisqu'au total, depuis mars 2021, on a des surcoûts globaux de 24%, mais quand on rentre dans le détail, alors vous voyez à l'écran une petite maison qui vous aide à prendre conscience de ces hausses de coûts, parce que c'est assez impressionnant. 66% de hausse depuis mars 2021 pour les couvertures, 63% pour la charpente, 44% pour le carrelage, 33% pour les menuiseries extérieures. Alors, je ne vais pas tous vous faire.
Elle dessine bien, Marie.
Non, alors, je ne l'ai pas dessiné. Je remercie Laura Larcon, parce que pour le coup, on a des infographistes de génie chez nous et je trouve qu'elle nous aide à faire des choses assez formidables à l'écran pour que vous puissiez voir visuellement les propos qu'on tient à l'antenne. Donc, je trouve ça génial et je la remercie beaucoup. Alors, donc, du coup, face à ces surcoûts, forcément, les professionnels du bâtiment, de la construction, ils répercutent dans leurs tarifs et donc ça fait des hausses de prix pour les acheteurs eux-mêmes. Alors si je conjugue les hausses de prix aux difficultés d'accès au crédit, ça fait qu'on est obligé aussi de revoir la façon dont on construit et puis aussi la taille de ce qu'on construit. Et ça aussi, c'était un élément intéressant que nous ont dit les gens de la Fédération française du bâtiment, c'est la surface moyenne habitable qui a évolué. On a vu qu'avant le Covid, on était autour de 100-105 mètres carrés la maison en moyenne. Ça a augmenté au moment du Covid, évidemment. Évidemment, des taux bas, envie d'acheter sa maison, etc. Et puis là, patatras, et on est passé de 113 mètres carrés en moyenne l'année dernière à 109 cette année. Ça a l'air de rien, mais là encore, vous voyez à l'écran la chute que ça représente. Donc, on fait des maisons plus petites pour s'adapter. Concrètement, la situation, elle est quand même très fragile pour tous les acteurs du secteur. On n'exclut pas à la Fédération du bâtiment et au pôle habitat des défaillances d'entreprises dans les mois qui viennent. Ce qui fait que forcément, on va réclamer à l'État quelques mesures. Alors, sur le crédit immobilier, un assouplissement des obligations liées au Haut Conseil de stabilité financière, on en a déjà parlé. Évidemment, une révision du mode de calcul du fameux taux d'usure. Je ne vous refais pas le sketch aujourd'hui. Sur l'accession, renforcement du PTZ, en l'étalant sur tout le territoire, relèvement des plafonds de revenus pour y prétendre. Sur l'investissement, maintien du Pinel, mais pas le Pinel Plus. Hein, attention, hein, le Pinel tel qu'il est aujourd'hui. La création d'un statut du bailleur privé, ça c'est un serpent de mer. Et puis sur la rénovation énergétique, ça va sans dire des aides un peu plus grandes quand même.
Bon, en attendant de voir s'ils seront entendus, il faut qu'ils s'adaptent, non ?
Exactement. Solidarité et adaptation, voilà les deux maîtres mots de ce séminaire technique du pôle habitat de la Fédé du bâtiment. Alors évidemment, c'est important aujourd'hui de s'adapter, de ne pas faire que de la construction, de faire de la rénovation, de changer peut-être les matériaux. Tout ça, toute cette capacité à s'adapter, ça a été récompensé à travers la remise de plusieurs prix le week-end dernier. Alors je ne vais pas tous vous les donner, parce que sinon ma chronique ferait 25 minutes. Mais je vais vous en donner quelques-uns qui m'ont marqué. D'abord, le promoteur Groupe Pierre Santi dans le Var, qui a décroché deux prix pour un projet à Bormes-les-Mimosas, ça s'appelle Cap Nature, vous voyez les images, 36 logements qui se fondent dans le paysage. Alors vous voyez bien que dans ce coin-là, il y a quand même un urbanisme assez délicat à devoir respecter quand même. Et c'est ça qui est assez joli, c'est que c'est vraiment bluffant. Vous voyez voyez qu'il y a seulement un étage sur les constructions et puis surtout des toits végétalisés, donc c'est assez joli. Et donc voilà, là c'était de s'intégrer dans le paysage, de rendre quasiment ces constructions transparentes. Je crois que c'est assez réussi. Toujours dans cet esprit d'adaptation, le constructeur Trecobat, alors là ça m'a particulièrement plu à moi en tant que femme, qui a reçu le prix de la démarche RSE. Alors il y avait beaucoup d'éléments hein, développés là-dedans, mais il y en a un effectivement que j'ai retenu, c'est comment adapter les métiers aux femmes qui veulent faire ce métier. C'est, vous avez le témoignage d'une femme qui explique que les outils sont peut-être pas adaptés et du coup il faut adapter ça aussi pour avoir plus de main d'œuvre en fait. Et il y avait notamment le patron de Trecobat qui nous parlait de l'idée d'acheter un exosquelette pour permettre justement aux femmes, mais pas que, de pouvoir porter des matériaux très lourds, etc. sur les chantiers. Donc voilà, un prix qui moi m'a marqué, parce qu'effectivement adapter les métiers c'est toujours très intéressant. Et puis un dernier pour finir, c'est Artis. Alors c'est un constructeur savoyard qui a récompensé dans ma vision du métier, c'est la catégorie. Alors bon exemple d'agilité, hein, c'est une entreprise qui était dédiée au départ à la construction de maisons en plaine pour de la résidence principale. Et puis là ils ont créé une chaîne, une gamme de chalets abordables. C'est une sorte d'investissement en fait clé en main. Vous allez vous faire construire votre chalet à la montagne et il y aura même un service de gestionnaire. Et on voit effectivement que c'est là que se trouve la clientèle maintenant pour Artis. Donc ils ont dû s'adapter à cette nouvelle clientèle. Et puisqu'on parle de chalet à la montagne, petit remerciement à l'équipe d'Unilin, fabricant de plaques isolantes. C'est pour ça les chars, parce qu'ils sont fabricants de plaques isolantes en polyuréthane. J'ai dit polyuréthane, Mathieu. Et aussi, visiblement, vous le voyez, des chars, ils ont permis de me tenir chaud pendant ce week-end à Malte qui n'était pas si ensoleillé que ça.
Tant et si bien que vous avez en plateau Marie-Cœur de Roy, pour ceux qui n'ont pas l'image, avec son écharpe et son col roulé, et notre invité Thierry Vignal en t-shirt.
Oui.
C'est deux salles, deux ambiances.
Oui, je lui ai dit, tu ne veux pas mettre un manteau quand même avant de venir.
Bon, contrasté. Hein.
Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Mastéos. Et on va évoquer certains des auditeurs qui vous ont écouté lors de précédents passages, où vous nous proposiez d'investir à l'étranger, qui ont donc quitté la France et qui veulent maintenant investir en France. C'est ça, les expatriés, à qui vous recommandez d'investir dans l'immobilier locatif. Pourquoi ?
Dans le sens inverse, donc.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, je voyais une étude sur ce plateau qui montrait que Paris était la 48e ville sur 50 sur le classement des villes qui attirent les expats. Donc, on n'est pas une ville qui attire beaucoup les expats. En revanche, quand on parle aux expatriés, ils nous font assez rêver parce qu'ils sont à Dubaï, à New York, à Londres. Ils ont une vie trépidante du soleil, des salaires élevés.
À Londres, du soleil.
Oui, à Dubaï, en tout cas, avec les influenceurs, il y a quand même 0% d'impôts. Enfin, on a pas mal de clients qui viennent de là-bas. Quand on les a au téléphone, il y a quand même une chose qui leur manque terriblement. À votre avis, c'est quoi ?
BFM Business.
Ouais. Mais ils peuvent nous regarder sur Internet.
Et non, c'est le système bancaire français qui, on aime s'en plaindre, mais reste le plus avantageux au monde en ce qui concerne le financement immobilier. On a les taux les plus bas du monde. Hein. On emprunte à 2,5 en moyenne quand l'inflation est à 7,8. Au UK, c'est 6. À New York, ils empruntent à 7% à taux variable. Vous imaginez la banque qui vous appelle le matin pour vous dire qu'il double votre mensualité. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est la réalité bancaire des expats. Donc ils ne rêvent que d'une chose, c'est de revenir et d'investir parce qu'ils n'ont pas beaucoup de retraite, ils ne savent pas trop comment ça va se passer. Bon. Ils ont besoin de se sécuriser, ils ont besoin d'un point de chute. Ils sont 95% à faire de l'investissement locatif, on s'en doute. Le problème c'est qu'ils ne sont pas logés à la même enseigne que nous autres. Ils ont en moyenne 40% d'apport et des taux majorés de quasiment un demi-point. En moyenne. Donc ça, c'est l'expat qui se pointe comme ça en touriste à la première agence venue. Évidemment, il y a des manières d'optimiser un peu son traitement quand on est expat. On a des banques qui sont spécialisées. Il faut bien connaître sa cartographie bancaire. En ce moment, les banques mutualistes sont plus sympas avec les expats que les banques classiques. Ce qui marche le mieux, ça reste sa banque familiale historique avec qui on a gardé des liens et un compte. Mais sinon, c'est pas mal de passer par un courtier spécialisé parce que vous imaginez l'agent, l'employé de banque qui se pointe le matin et qui reçoit un dossier avec des relevés de compte en chinois.
Ouais.
Il est un peu découragé.
C'est pas gagné.
Donc c'est pour ça. Donc en moyenne, ils empruntent avec 20% d'apport et 20% de nantissement. C'est du placement en cash, ce que nous, on n'a pas à subir. Mais on peut optimiser leur situation et viser du 20% tout court avec les bons réseaux. Voilà.
Bon, mais ils sont expatriés. Est-ce qu'il faut qu'ils se dépêchent ? Est-ce que, enfin, on est quand même dans une période particulière là où il y a des incertitudes, où on a l'inflation. Enfin, c'est le moment en ce moment d'investir.
Bah, oui, généralement, c'est le moment, mais surtout en France. Et en fait, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de leur parler à eux. Nous, on se plaint du système. Et eux, ils mettent en exergue une chose, c'est qu'on emprunte quand même à un tiers de l'inflation. Eux, ils empruntent au niveau de leur inflation. Oui. On a 7% d'inflation, ils empruntent à 7. Nous, on emprunte à 2,5. On emprunte sur 20, 25 ans, à taux fixe, avec des niveaux d'apport ridicules, un marché hyper stable. Donc, ça fait du bien de leur parler. Et c'est les clients les plus motivés. Tout client convenu, nous, c'est un client sur 5 chez Mastéos, parce que ils ont que ça pour se protéger. Et en fait, ils nous rappellent que on a un système bancaire en or et il ne faut pas attendre d'être expatrié pour s'en rendre compte. Et on a un marché qui reste très attractif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un biais très patrimonial. Autant nos clients résidents français, ils vont aller chercher du rendement dans des zones plus ou moins exotiques. Les expats, ils veulent du safe, ils veulent du patrimonial.
Ils veulent du Paris, du Lyon
Paris, Bordeaux, Lyon. Du très très patrimonial en centre-ville, parce qu'à distance tout pépin prend des proportions énormes, ils sont pas là pour surveiller. Être accompagné, s'adresser à des banques spécialisées. Et pourquoi d'ailleurs ils subissent un traitement défavorable? Un, parce que leur dossier est complexe à traiter, mais surtout, leurs salaires sont insaisissables. Un salaire en Thaïlande, en cas de défaut, on peut pas trop faire. La banque française ne peut pas faire grand-chose et la banque étrangère ne peut pas saisir le bien en France.
Mais du coup, vous, chez Mastéos, vous faites tout clé en main? C'est-à-dire que moi, je suis expat, j'ai envie d'investir, vous allez me trouver ma banque?
On va aider, ouais. On a un courtier spécialisé, on connaît un peu les banques qui prêtent plus aux expats, mais il faut vraiment arriver préparé avec des documents traduits par un traducteur assermenté de l'ambassade ou de l'Alliance française. On jette pas en pâture des relevés de compte en chinois. Voilà. Donc, arriver préparé, être bien accompagné.
Et j'investis où quand même, juste parce que je sais, vous avez, on a compris en gros ce que je veux moi en tant qu'expat. A priori, c'est du gros, du Paris, du Bordeaux, du Lyon. Mais vous allez me conseiller quoi en fait?
Nous, on est très école patrimoniale chez Mastéos. On pense que c'est là où le risque est le mieux rémunéré. Donc, on a tendance à confirmer ce biais patrimonial des expats. Ils ont des budgets en général un peu plus élevés. En moyenne, d'ailleurs, c'est deux fois le budget d'un local. Donc, pour les banques, ça peut être intéressant malgré le risque qu'ils présentent. Et oui, on les emmène dans ces villes-là et on est particulièrement attentif parce qu'à distance, ils sont très, très stressés. Voilà. Et pour la fiscalité, si jamais ça vous intéresse, le LMNP marche bien. On est comme en France.
Et ce sont tous les expats, entre guillemets, qui veulent vraiment investir aujourd'hui en France, ou il y a plus ceux qui sont dans le sud-est asiatique, plus ceux qui sont en Amérique,
On a beaucoup d'Européens. À 50%, ce sont des Européens. D'accord. Et parmi les Européens, il y en a deux tiers qui viennent de Londres et de Suisse, Genève notamment. Donc pas mal de Frenchies londoniens et de Suisses. Et pour l'autre moitié, on a 20% qui sont en Asie, à Hong Kong et à Singapour, on a des grosses communautés. Et 15% qui sont à New York, et les derniers 15% sont à Dubaï, au Moyen-Orient. Voilà, donc c'est ça les grandes communautés
d'expats. Des influenceurs
Je ne crois pas que j'en ai eu. Si, j'en ai peut-être. Pas une Nabila en tout cas. Nabila, si tu nous écoutes,
on est là. Viens pour voir Mastéos.
On saura te traiter fiscalement et au niveau bancaire.
Thierry Vignal pour Mastéos. Merci d'être passé nous voir. Merci Marie pour ce compte-rendu. Prochain déplacement?
Eh ben, j'attends que la Fédé m'invite ailleurs, mais s'il pouvait faire beau, je sais pas. Voilà.
Ou alors il faudra une deuxième écharpe. Dans un instant, on passe un coup de fil à nos traders, histoire de voir un petit peu comment travailler le marché. Suivront Nicolas Dose et François Monnier et Sarah Thirion. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque matin, vous le savez, deux traders lisent graphiquement la séance du jour et vous ouvrent leurs écrans. Jean-Louis Cussac et Stéphane Soluteil sont nos traders du vendredi. Stéphane Soluteil depuis Technibourg, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux d'être présents. Stéphane Soluteil, comment lire cette tendance de marché qui parfois nous réserve quelques surprises? On a vu plusieurs séances avoir des renversements de tendance ou de longues phases d'hésitation qui ne nous aidaient pas. Alors comment vos lectures graphiques peuvent-elles nous donner des indications?
C'est vrai qu'on avait tenté de déborder cette grosse zone de résistance 6700-6730. On est sur les 6730 à l'heure actuelle. Mais on a manqué de relais, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quand même une inquiétude de la part des investisseurs sur le rythme de ralentissement de la croissance? Est-ce que finalement on n'a pas déjà anticipé cette décélération des taux? C'est bien possible et le facteur limitant, je vous en parle quasiment semaine après semaine, pour moi reste le consensus trop positif. Aux États-Unis, on a 78% d'investisseurs haussiers, donc là aussi ça limite, je pense, un petit peu les initiatives haussières, mais force est de constater qu'on ne veut pas baisser non plus. Alors ce qui fait que graphiquement les niveaux d'alerte montent régulièrement, puisque finalement le CAC 40 arrive à grappiller jour après jour, semaine après semaine, quelques dizaines de points. Donc on surveillera quand même les 6670 points. La rupture de ce niveau, si ça se faisait par exemple ce soir, ça enverrait peut-être un signal correctif un petit peu plus important, mais c'est vrai que là aussi les niveaux d'alerte un petit peu plus longue échéances sont remontées. Je crois qu'on aura du mal quand même à passer en dessous des 6400-6500 points. La semaine dernière, c'était plutôt 6400-6300. Vous voyez, là aussi, on est remonté au niveau des niveaux d'alerte un peu plus longue échéance, 6400-6500. Je pense que le NFP sera très important. Il vaudrait mieux, je pense, qu'il soit un petit peu conforme aux attentes. Ça maintiendrait ce climat positif. S'il est trop fort ou trop faible, je pense que ce sera probablement négatif pour les marchés. Trop fort, on craindra encore des hausses de taux. Trop faible, on se dira peut-être que la récession sera peut-être un peu plus importante que prévu. Et voilà, donc on est quand même un petit peu sur le fil du rasoir. On peut pas dire que le signal d'achat qu'on a eu en intra-semaine soit des plus jolis, puisqu'on est quand même revenu en arrière ces dernières heures. Donc voilà, c'est un marché qui est toujours un petit peu bizarre quand même, mais on sent que voilà, il faudrait peut-être pas grand chose pour vraiment le faire monter ou vraiment le faire baisser. Je reste toujours un petit peu dubitatif sur une hausse potentielle compte tenu de ces 20% de progression que l'on a eu en 8 semaines, qui est un record quand même relativement important. Donc voilà, prudence quand même, et surveiller les 6670 points à la baisse. Et puis si on clôturait ce soir au-dessus des 6830, et plus on clôturera au-dessus, et plus effectivement peut-être que on pourrait espérer les 7000. Mais voilà, je suis encore un peu incertain sur le devenir du CAC.
Voilà la vision proposée par Stéphane Sauduté. Jean-Louis Cussac, comment lisez-vous le marché et quelles sont les clés que vous pouvez nous proposer ce matin?
La lecture qu'on peut avoir comme ça, c'est d'abord globalement la même que les jours précédents, c'est-à-dire l'idée d'acheter n'est pas remise en cause. Mais maintenant, à 14h30, c'est sûr que les statistiques de l'emploi vont peut-être apporter beaucoup de volatilité. Donc c'est vrai que on le voit sur le volume, inférieur à 500 millions, nettement inférieur au jour précédent quand même, un peu en dessous. Il y a vraiment un peu d'attente là, c'est très clair, les marchés ne font pas grand-chose. Et sur les actions, bon, Téléperformance, c'est la plus forte hausse, annoncée de bonnes choses, visant à améliorer ses pratiques et pour éviter les risques de controverses, etc. Mais elle monte. Le reste, si vous voulez, vous avez Total et Sanofi qui passent assez lourd dans l'indice, puisqu'à L2, elles font 15,6% et elles perdent en moyenne 2%. Vous voyez, donc ça pèse un peu là. Il y a les financières qui reculent. Bon, le reste, il y a rien d'extraordinaire. Moi, si vous voulez, l'alerte d'un... la confirmation peut-être aussi de ce qu'on pourrait anticiper, penser, c'est-à-dire hier, par exemple, à 14h30, on a manqué de dynamique par rapport au marché américain. Est-ce le signal que le marché va s'arrêter là? Vous voyez, des questions qu'on a en droit de se poser quand on regarde les valeurs une par une, où c'est compliqué de détecter des opportunités d'achat sur les grosses valeurs, et c'est là où les intérêts sont ciblés, parce que s'il y a des problèmes sur la croissance économique plus tard, il faut acheter des belles valeurs, il faut acheter les solides et pas les petites. Donc les gérants, de façon qui sont sous-investis, ils vont acheter ces grosses, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Alors, c'est quoi le niveau à partir duquel on pourrait commencer à se poser des questions? Bah, c'est 6006. Hein. Moi, je vois pas vraiment avant. Bon, évidemment, en intraday, à un moment donné, on aura un signal de peut-être de vente et on dira dans la zone des 6006, est-ce que ça va confirmer ou pas? Ça sera un peu le tournant et le signal peut-être d'un vrai, si vous voulez, retracement qui pourra toujours nous ramener vers les 6450 si jamais on avait un petit flux de mauvaises nouvelles. Peut-être que Biden et le président Macron sont vraiment montrent une grosse entente, mais vous savez, on n'est pas à l'abri d'une guerre commerciale. On en reparlera, on aura l'occasion certainement d'y revenir, mais c'est pas évident. Donc ça peut être le début justement d'un retracement, le catalyseur d'un retracement, même s'il y en a d'autres hein, potentiellement. Mais les autres sont parfaitement intégrés, celui-ci un petit peu moins. Donc voilà, il n'y a pas de quoi tirer de grosses leçons de cette situation actuelle. Il y a beaucoup de résilience toujours. On est toujours à l'achat. Moi, ce matin, en première intention, j'étais placé à 703. Bon, on l'a pas fait. On s'est arrêté sur 20. Du coup, on a payé 20, mais on a revendu à vraiment des écarts très très faibles, 37. Et là, on recommence. Bon, c'est vraiment du scalp en attendant le gros événement à 14h30 que vous aurez l'occasion évidemment de commenter cet après-midi.
Merci à tous les deux, Stéphane Sauduteil, Jean-Louis Cussac qui était avec nous ce matin pour ce match des traders. On vous retrouve tout à l'heure, Stéphane, à 11h30. Vous suivez la séance pour nous et on verra ce qu'il en est. Donc dans une heure, le marché parisien, lui, eh bien, il s'affiche en ce moment en repli, 0,3%, 6733 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
La réforme des retraites se précise, Elisabeth Borne dévoile des éléments. C'est dans un entretien au Parisien, qu'y apprend-on ?
On apprend à peu près tout, en fait, elle dit tout. Alors, sur l'âge de départ, on voit bien que sa porte est ouverte, ma porte est toujours ouverte. Et en fait, ils veulent aller à 65 ans en 2031. Et ça va toucher les générations qui sont nées au deuxième semestre de 1961. Sur les pensions, le montant des pensions ne baissera pas. Alors, je rappelle que la pension moyenne aujourd'hui, c'est 1400 euros net par mois. On apprend que la pension minimum pour une carrière complète, qui avait été annoncée à 1100 euros, sera de 1200 euros. Pour les actifs qui payent pour les retraités, il n'y aura rien sur les cotisations, ça n'augmentera pas. Et puis, l'âge de départ à taux plein, au-delà duquel il ne peut pas y avoir, il ne peut plus y avoir de décote, sera inchangé. Cet âge, aujourd'hui, il est de 67 ans.
Qu'est-ce qui va se passer pour les carrières longues, les métiers pénibles et les seniors ?
Alors, les carrières longues, tous les dispositifs qui permettent de partir 2, 3, 4 ans avant l'âge légal qui existe aujourd'hui sont maintenus. La nouveauté, c'est qu'on va prendre en compte le congé parental, ce qui n'était pas le cas avant. Je rappelle qu'Olivier Dussopt avait déjà dit qu'on ne changeait rien pour les départs en cas d'invalidité et pour les handicapés. C'est 62 ans pour les invalides, 55 ans pour les handicapés. Sur la pénibilité, là, elle est très très vague. Sur la pénibilité, on sent une chose, c'est qu'ils veulent surtout pas reproduire le monstre du compte pénibilité 2013-2014 qui était d'une telle complexité qu'il était tout simplement inapplicable. Sur l'emploi des seniors traditionnels, évidemment, la Première Ministre appelle à la responsabilité des entreprises. Elle indique quand même que l'index senior verra le jour, exactement le même dispositif contraignant que ce qu'on a mis en place pour tendre vers l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Elle indique aussi que les cumuls emploi-retraite, le système sera simplifié, avec l'objectif, c'est qu'il rapporte plus à la fin. Également, on va rendre plus incitatif la retraite progressive. La retraite progressive, c'est avant l'âge de départ à la retraite, une sorte de temps partiel choisi. Et d'ailleurs, les fonctionnaires auront accès à la retraite progressive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Les régimes spéciaux, puisqu'on n'en a pas parlé, ouais, ils seront concernés, pas concernés ?
Oui, mais clause du grand-père. C'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui à la RATP, qui sont électriciens, qui sont gaziers, qui sont clercs de notaire, eh ben, les futurs embauchés dans ces domaines-là n'auront plus accès au régime spécial. Par contre, tous ceux qui y sont aujourd'hui le conservent. C'est exactement ce qu'on a fait à la SNCF. Donc, je rappelle que sont épargnés, par exemple, les danseurs de l'opéra, les marins. Ah oui, la Banque de France aussi fait partie des régimes spéciaux qui vont connaître la clause du grand-père. Les marins, à l'inverse, non, il ne se passe rien. On garde le système, pareil pour les danseurs de l'opéra, idem pour la comédie française. Après, sur le calendrier, elle donne un peu plus d'éléments. Ce ne sera pas un amendement passé discrètement juste avant Noël. Non, ce sera... La réforme est donc présentée avant Noël, mais en fait, elle est quasi présentée. D'ailleurs, je suis étonné de la méthode de communication. On nous dit depuis deux jours, ce sera mi-décembre. Et là, tout est quasi déversé dans la presse. Moi, je serai à la place des syndicats à qui on demande de discuter. Je trouve ça un petit peu cavalier. En tout cas, le texte.
Remarquons, c'est déjà qu'ils sont contre aussi. Donc.
Oui. Le texte est prévu pour début 2023. Examen parlementaire au printemps. Alors, elle est très prudente sur quel véhicule législatif. Vous savez que si elle profitait éventuellement d'une loi de finances rectificative, là, on peut utiliser le 49.3 sans limite. C'est le seul texte qui permet d'utiliser le 49.3 sans limite. Et puis après, entrer en vigueur avant la fin de l'été. Alors, il faut bien avoir pris conscience, souvent, on dit « elle entre en vigueur », ça ne veut pas dire que le 1er septembre, tout le monde part à 65 ans. Hein. C'est étalé dans le temps. C'est, en l'espace de 9 ans, on passe de 62 à 65 ans. Souvent, quelquefois, on voit des réactions de gens qui disent « ah, mais donc, non ». C'est alors, elle n'a pas d'ailleurs dit combien de trimestres ça représenterait tous les ans en plus. Après, trois remarques pour terminer. On est vraiment sur une réforme purement paramétrique. Alors, c'est vrai qu'il va assez loin, passer de 62 à 65 ans, mais c'est vraiment que du paramétrique. Deuxième élément, quelque chose d'audacieux eût été d'introduire une hausse de capitalisation. Il se trouve que c'est exactement ce qui est défendu par le rapport de l'OCDE de 2023 qui a été publié hier et qui dit la France, si la France veut régler son problème de déficit structurel et récurrent du système de retraite, elle est obligée de mettre une dose de capitalisation à côté de la répartition. Et puis, ça, c'est pas un scoop, mais c'est la fameuse courbangie des réformes. On est là, on nous dit économie, économie, économie. Une réforme comme celle-là, au début, elle coûte de l'argent avant de rapporter de l'argent. C'est exactement ce qui s'est passé dans le passage de 60 à 62 ans, parce que vous avez des dépenses. Il y a un moment où vous avez des dépenses sociales en hausse, d'assurance chômage, d'invalidité, de minima sociaux. Mais il ne faut pas oublier que c'est bien beau la pension minimum à 1 200 euros, mais ça aussi ça coûte. Et puis on voit bien que les régimes spéciaux, avec la clause du grand-père, il vous faut 40 ans pour les éteindre, donc ça aussi ça coûte. Mais à la fin, c'est vrai que ça finira par rapporter 2027-2030, dans les 10-12 milliards par an.
Nicolas Dose pour la polémique du jour. Dans un instant, on ausculte les marchés à travers le prisme inflation avec François Monnier et Sarah Thirion. Et puis, à suivre également, en début de deuxième heure, regard croisé. Tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Le marché parisien ne sait plus trop sur quel pied danser. Parfois, on tente une ouverture dans le vert et puis on s'étiole. Et puis là, on est dans le rouge, mais on sent qu'il y a une volonté de revenir à l'équilibre. Alors, est-ce qu'on va y arriver? En tout cas, on perd encore un peu de terrain. Moins 0,27% pour le CAC, 6735 points. Ailleurs en Europe, on a déjà un petit peu d'avance. Hein, moins 0,17 seulement pour l'Eurostock 50. Les principaux arbitrages, dont le rouge du Sanofi, du Total Energy, ou encore du Renault. Et parmi les plus fortes hausses, on trouve notamment Téléperformance qui reprend 3,03% à 227,90, mais aussi Essilor Luxottica ou encore Dassault Systèmes ou SRD. On peut citer les dégagements sur Vranken ou la bonne tenue d'SQLI. Du côté des devises, l'Eurodoll est à 1,0527.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Sarah Thirion.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour TPI Cap en compagnie de François Monnier. Bonjour François.
Bonjour.
Pour la rédaction d'Investir, on va pas mal s'intéresser aux questions d'inflation. Mais d'abord, un petit mot sur l'Investir Day qui s'est tenu cette semaine. C'est votre grande manifestation au Carrousel du Louvre. 5000 épargnants, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher?
Ils viennent à la rencontre d'experts. Il y avait eu quand même près de 40 patrons d'entreprise. Il y a 110 intervenants. Il y a des dizaines de tables rondes. Et donc là, on a eu un public qui était étonnamment jeune, en tout cas beaucoup plus jeune que les années précédentes. Et ils viennent chercher des idées d'investissement. Tout simplement, c'est savoir comment on fait fructifier, comment on diversifie son épargne. Donc, ils viennent échanger et repartir avec des idées. Et on les a trouvés quand même plutôt sereins.
Dans un contexte où... Donc, plutôt sereins.
Oui, plutôt sereins, en se disant que finalement, une baisse de l'ordre de 5% de la bourse, si on compare au CAC 40, compte tenu du contexte, la guerre en Ukraine, un choc énergétique, de l'inflation, quand même beaucoup de tensions géopolitiques et un risque de récession, en tout cas de net ralentissement de l'économie. eh bien, ils ont compris que la bourse, elle était quand même capable de s'adapter quasiment à tous les environnements et que, quelles que soient les conditions, il y avait toujours des opportunités d'investissement.
Bon, on ne sait pas si la bourse va leur donner raison ou pas. En tout cas, elle semble vouloir y croire, là.
Absolument. On a eu quand même une remontée assez spectaculaire des indices. Si on regarde le CAC 40 depuis le creux du 13 octobre, on a eu un rebond de près de 20%. On a un rebond de près de 17% de Wall Street. Donc la bourse a rebondi fortement, brutalement, comme souvent quand la bourse change d'avis. Et finalement, il s'avère qu'elle a eu raison, puisqu'on a eu la confirmation cette semaine que ce que jouait la bourse, c'est-à-dire un apaisement sur le front de l'inflation, eh bien, finalement, on voit que ça reflue. Alors, ça reflue doucement. Il ne faut pas s'emballer, mais on a vu les chiffres dans la zone euro. On avait une inflation de 10,6% en octobre. Là, on tombe à 10%. Donc, ça se stabilise. On reste sur des niveaux très élevés. Ça demande, bien sûr, une confirmation. Mais on a quand même un signal que peut-être que le pic a été atteint. Et puis, on a eu aussi la confirmation avec Jérôme Powell que le rythme de hausse des taux de la Banque Centrale Américaine, eh bien, il allait ralentir et que les méga hausses de taux de 75 points de base, eh bien, ça, c'était terminé. On sera plutôt aux alentours d'un demi-point de base mi-décembre et peut-être encore au début de 2023. Donc, la situation commence un petit peu à se normaliser et c'est ce qu'a applaudi fortement la bourse.
Elle a eu raison de prendre l'ascenseur, la Bourse de Paris. Enfin, il n'y a pas que la Bourse de Paris d'ailleurs, parce qu'on peut regarder depuis les plus bas, c'est en gros 20% de reprise pour le CAC, 20% de reprise pour le Dow Jones. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, on verra ce que vous en dites d'ailleurs, d'un bear market. Enfin, qu'est-ce que vous en dites d'abord, vous
Sur le front de l'inflation?
Ouais. Sur le front, oui, puis de la réaction du marché.
Le marché avait ce FOMO, en fait, la peur de manquer effectivement qu'un des feux rouges passe au vert. Et on avait cette perspective de l'accalmie de l'inflation et donc pour corollaire le fait que les banques centrales du coup se calment dans l'ampleur de la hausse de taux. Attention, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Et bien sûr, la pente reste ascendante, que ce soit Banque Centrale Européenne ou Fed. Et on a vu qu'effectivement, finalement, il finissait par y avoir un ralentissement de l'économie réelle qui, du coup, induisait un ralentissement de l'inflation. Ça n'enlève rien au choc d'offres qui persiste, malheureusement, à cause de cette situation à l'Est. Et voilà. Et oui, les marchés ont raison. Enfin, de toute façon, a posteriori, c'est toujours facile de le dire. Mais là, on a eu cette semaine en début de mois de décembre, un espèce d'alignement de planètes qui semble se manifester, avec Jérôme Powell qui confirme qu'il va falloir continuer mais qui peut calmer l'ampleur des hausses de taux, avec la Chine qui finalement est assez sensible aux manifestations et qui se dit que il faut peut-être assouplir les restrictions Covid, et la Banque Centrale Européenne qui voit cette inflation ralentir un petit peu dans son orientation, dans son ampleur, et qui pourrait, elle aussi, considérer peut-être des hausses de taux moins substantielles. Donc, raison ou pas, le fait est que c'est comme ça, et que finalement, les indicateurs nous ont donné raison cette semaine, ou en tout cas, les nouvelles nous ont donné raison cette semaine.
Bon, mais malgré tout, 20% bull market ou pas bull market? Enfin, est-ce que ça va continuer? Est-ce que la dynamique peut se poursuivre?
Là, est-ce qu'il faut savoir une confirmation dans les jours ou les semaines qui viennent que finalement, cette inflation, elle continue de refluer. Parce qu'on a vu que c'était vraiment ça qui décidait de tout. L'inflation aura des impacts sur la hausse des taux, un impact sur la valorisation des valeurs technologiques, les valeurs de croissance qui pèsent extrêmement lourd dans les indices. Donc, c'est vraiment la clé. Donc, c'est vraiment ça qui donne. Après, au niveau technique, si on regarde ce qui se passe sur ceux qui vendent les shorts, ceux qui vendent les actions, etc., tous les vendeurs sont partis. Donc, on n'est plus dans une zone de survente du marché. On est quasiment dans une zone de surachat. Tout le monde s'est dit qu'il ne faut surtout pas qu'on loupe cette hausse et ce rallye, probablement le rallye de fin d'année qui est arrivé un peu plus tôt. Il faut qu'on reste présent sur le marché. Donc on est passé d'un excès de pessimiste fin septembre, début octobre, à là peut-être un excès d'optimiste. Comme à chaque fois, on passe d'un extrême à l'autre. Et ça montre que s'il n'y a pas de confirmation dans les jours qui viennent sur le fait qu'il y a une inflation qui s'apaise, eh bien, on pourrait repérer encore quelques pourcents quand même.
Jusqu'où est-ce que, selon vous, on peut pousser les feux?
Non, mais en fait, il y a quand même deux, trois éléments à surveiller. C'est qu'on oublie que la bonne nouvelle, Chine, qui réoriente ses restrictions, enfin, qui ajuste ses restrictions sanitaires, ça pourrait vouloir dire accélération de la croissance en Chine. Qui dit accélération de la croissance en Chine, ça veut dire soulagement sur la croissance mondiale, mais ça veut dire à nouveau plus d'inflation. Donc c'est quand même un sujet. Et aussi le corollaire à ce travail fait par les banques centrales et par la situation globale géopolitique, c'est qu'on a un environnement macroéconomique qui se détériore, mais qui se détériore dans quelle proportion ? Aujourd'hui, quand on regarde le consensus d'analystes pour 2023, croissance mondiale attendue à 2,3%, croissance des BPA à 5% aux États-Unis, 3% en Europe. Alors c'est possible, mais peut-être que c'est trop optimiste.
Donc, on ne peut pas pousser beaucoup plus loin ?
Donc, on peut. Moi, je pense que les gens attendront. Enfin, les investisseurs. Moi, j'attendrai, en tout cas, à titre personnel, d'avoir un peu plus de visibilité sur 2023 pour être plus proactive.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, est-ce que, notamment dans la côte, François, tout le monde est logé à la même enseigne ? Ou est-ce qu'on peut encore trouver quelques secteurs ou quelques titres qui pourraient profiter, malgré tout, d'une poursuite ou de rebondir alors qu'elles ne l'ont pas encore fait.
Ben oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs qui n'ont pas du tout profité de ce rallye de fin d'année. D'abord, on a des titres qui ont continué de baisser ou qui ont même fortement baissé depuis le rebond du marché le 13 octobre. Si on regarde dans la côte, ne serait-ce la côte française, entre les petites valeurs, les valeurs moyennes et les grandes, si on prend une petite, Katana, fabricant de bateaux, il a perdu, lui, plus d'une dizaine de pourcents depuis le rebond. Alors, ça fait un écart considérable avec le marché. Tout ça parce qu'ils ont annoncé un chiffre d'affaires, certes en croissance de 48%, mais des reports de livraison de bateaux, 30 bateaux qui n'ont pas pu être commercialisés au cours de l'exercice qui vient de se terminer, parce qu'ils avaient des problèmes de fourniture, de composants. Et donc, on le voit, les sujets sur est-ce que la chaîne d'approvisionnement, elle est fiable, est-ce qu'elle est tenable, etc. Ça reste des sujets de préoccupation, les mêmes sujets qu'on avait fin d'année dernière. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail sur les chaînes logistiques. Il n'empêche que Katana, qui perd plus de 10% quand le marché prend 20% et qui vous annonce que après un exercice où le chiffre d'affaires a progressé de 48%, ils ont une visibilité et un carnet de commandes qui leur permet de faire encore une croissance de près de 40%, eh bien, ça se regarde parce qu'on se dit finalement, le marché exagère. Là, cette fois, en étant trop pessimiste, ils ont quand même continué à produire beaucoup de bateaux et ces bateaux, ils ne sont pas perdus parce que les clients, ils les attendent toujours. Et donc, c'est ce qui compte quand même, c'est est-ce qu'il y a toujours des clients ? Et les clients sont toujours là et ils ont un carnet de commandes à 2 ans. Et
bien sûr.
Autre exemple, Nexans qui a baissé alors que le marché a remonté parce que la direction dit peut-être qu'en 2023-2024, on risque de manquer de cuivre parce que si la Chine sort du confinement, ils vont se remettre...
Ils vont en avoir besoin.
Ils vont se remettre à consommer et donc le cuivre, qui est la matière essentielle pour un fabricant de câbles, risque de nous manquer. Donc attention, 2024-2025. Et là, le marché a peut-être été un peu trop sévère avec le titre en disant « Ok, très bonne année 2022, très bonne année 2023, mais il y a probablement un risque. » Donc après, il va falloir repenser, mais c'est les grandes tendances, hein, comment on recycle le cuivre pour le réutiliser, etc. Donc, la méfiance était peut-être probablement trop exagérée à l'égard de Nexans. Et puis, un autre exemple, Sartorius Stedim, là on est dans la santé, boudé dans la phase de rebond du marché, alors que, j'ai envie de dire, c'est vrai, les valeurs Covid ont eu des années fastes en 2020, en 2021, mais peut-être que là, il faut se dire que du Covid, d'abord, il y en a toujours, hein, on le voit même en France, donc ces valeurs de croissance qui ont perdu près de 30% depuis le début de l'année, ça mérite aussi d'être dans les portefeuilles.
Vous avez aussi, ciblé quelques typologies de valeurs qu'on pourrait acheter aujourd'hui, qu'on peut encore rebondir ?
Quand on regarde la cote, si on prend l'Eurostox aujourd'hui, il y a 3 secteurs qui sont en territoire positif depuis le début de l'année. Tout le reste est dans le rouge quand même. Donc on peut aller piocher dans le rouge, déjà. Et puis, effectivement, si on se dit qu'il y a moins d'inflation, donc moins de hausse de taux, il est peut-être temps de remettre un peu de valeurs de croissance, et notamment des valeurs de croissance qui résistent bien dans des périodes de ralentissement économique, voilà, et qui ont recréé parfois des opportunités de repositionnement. Je pense à des Dassault Systèmes, je pense à du Capgemini, peut-être à du Téléperformance, par exemple. Voilà, donc il y a des choses à aller regarder. Et puis après, il faudra faire très attention aux nouvelles qui seront annoncées en provenance de Chine. Aujourd'hui, les allocations, enfin les allocataires ont quand même largement évité la zone et les valeurs qui sont exposées à la zone, à l'exception du luxe. Mais il y a quand même à l'intérieur du luxe, des valeurs qui ont été très sanctionnées sur le play Chine. Je pense à Rémy Cointreau, par exemple, dans les plus petits dossiers, qui est très sensible à cette lecture. Donc il faudra surveiller la réouverture de la Chine, qui redonnerait de l'élan à un certain nombre de thématiques et de valeurs qui sont exposées localement.
Eh bien, voilà quelques idées à avoir en tête dans ce marché un petit peu particulier. François Monnier et Sarah Thirion qui nous accompagnent ce matin. On vous retrouve tous les deux tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Dans un instant, un détour par le marché. Et puis, il y a bien évidemment nos replays qui vous attendent sur le site ou sur vos plateformes préférées pour nous retrouver à votre convenance. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.